La Coupe du Monde. Quelque part, cette année, je trouve que c'est bien de ne pas avoir notre équipe dans le jeu. Parce que d'une certaine façon, on est beaucoup plus relax pour voir les matchs. Je ne suis pas près de la crise cardiaque à chaque fois que la France est en passe de recevoir un but. On peut apprécier le jeu et apprécier la détermination des équipes qui veulent à tout prix remporter cette victoire. S'il y en a parmi vous qui ont vu le match hier de la Corée contre l'Espagne, c'était vraiment un match d'engagement total. Et je pensais en fait que dans ce match, on voyait bien différents adversaires que chaque équipe devait affronter. Et je pensais que l'Espagne n'avait pas le jeu très facile. D'abord, ils avaient un adversaire direct, la Corée. Et on sent que les Coréens, c'est pour eux une question de vie ou de mort de gagner cette Coupe du Monde. Ils sont prêts à aller jusqu'au sacrifice suprême pour gagner. Si vous avez vu les foules qui se réunissent après leur victoire, c'est rien à côté des Champs-Élysées. Au lieu d'un million, c'est 4 millions de personnes qui sont là en train de sauter de joie. Mais leurs adversaires directs, ces Coréens, sont des joueurs pleins de talent et d'énergie. Motivés à 150%. Ça, c'est un premier adversaire, l'adversaire direct. Puis ces Espagnols, ils ont un adversaire à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils doivent s'adapter au décalage horaire. Ils devaient être un peu habitués, mais quand même, on n'est pas chez soi. Beaucoup de fatigue. Sans compter le doute qui devait se glisser dans leur cœur. Est-ce qu'on ne va pas encore se faire battre par cette équipe qui a éliminé l'Italie ? Il y avait un adversaire direct, un adversaire en eux-mêmes. Il y avait un adversaire aussi. Un adversaire qui les entourait. Un public fanatique. Sans compter les conditions climatiques. La chaleur intenable. Quand c'était pas d'autres matchs où c'était la pluie qui était un adversaire aussi. Et je pensais qu'en fait, dans ce match, on voyait les adversaires du chrétien. Nous savons, Éphésiens 6, 10, que notre adversaire, ce n'est pas la chair et le sang. Notre adversaire direct, c'est Satan et tous ses sbires, tous ses démons. Il y a un adversaire à l'intérieur de nous-mêmes. Notre vieille nature de pécheur. Nos tendances qui nous portent à pécher. Cette chair qui a pris, cette vieille nature qu'on appelle la chair, qui a pris ses habitudes depuis si longtemps dans notre vie. Et puis, il y a l'environnement autour de nous, le monde non chrétien, le monde qui est hostile à Dieu, ce que la Bible appelle le monde. Et Satan, c'est le prince de ce monde. Et il utilise le monde pour tenter notre chair. Et je ne sais pas si vous étiez là lorsque Nick était justement venu faire une retraite à la montagne. Mais si vous avez une bonne mémoire, vous vous souviendrez qu'il avait justement étudié ses trois adversaires dans le livre de Josué. Et aujourd'hui, nous allons parler de la conquête de Jéricho. Et quelque part, ça, c'est la conquête sur le monde qui nous entoure. La bataille de Ai, ou Ai, qui sera au chapitre 7, nous allons voir que c'est une bataille contre notre vieille nature de pécheur. Nous verrons aussi la ruse des habitants de Gabaon. Et ça, ce sera une illustration des ruses de l'ennemi, de Satan. Et donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur Josué 6. Josué 6, que nous avons entamé juste un peu la semaine dernière. Et c'est vrai encore une fois que Jéricho, c'était une splendide ville en terre promise. Certains pensent que c'était peut-être la plus ancienne ville au monde. Des fouilles archéologiques trouvent une civilisation qui date peut-être de 7000 ans avant notre ère, avant nos jours. Et jusqu'à ce jour, il paraît que c'est une très belle ville plantée de palmiers, avec un climat très agréable, propice aux cultures fruitières. Aujourd'hui encore, on produit beaucoup des oranges, même des bananes. C'est une ville qui représente en quelque sorte ce que le monde a de mieux à offrir. Et c'est vrai que pour les Israélites, c'était un défi formidable. Et nous en avons parlé la semaine dernière, elle avait des fortifications impressionnantes. Et ils devaient combattre cette ville. Après avoir coupé leurs arrières, ils ne pouvaient plus franchir le Jourdain. Et nous avons vu le stratagème que Christ lui-même donnait à Josué. Josué, si vous vous souvenez, il avait reçu un appel. Cet appel avait été à prendre la terre promise, à commencer la conquête, à rentrer en campagne. Et nous avons vu la semaine dernière qu'il avait suivi cet appel d'une préparation. Vous souvenez qu'ils avaient procédé à la circoncision de tous les Israélites. Ils avaient célébré la Pâque, chose qu'ils n'avaient pas faite depuis leur début de traversée du désert. Et nous avons vu que Josué avait dû faire face à quelqu'un avec l'épée à la main, nue à la main. un soldat. Et nous avons vu qu'en fait c'était une révélation de Jésus-Christ lui-même qui venait pour lui dire la bataille ne t'en fais pas, elle est à moi et je te donne la victoire. Lorsque Dieu nous appelle à quelque fonction que ce soit dans son royaume, soit pour être un témoin dans notre entourage, pour être un parent qui élève ses enfants dans la foi chrétienne, pour servir dans l'église, pour enseigner, pour devenir missionnaire, pour devenir pasteur, il faut que cet appel soit suivi d'une préparation. Et cette préparation doit déboucher sur une révélation de Jésus-Christ. Même si vous servez avec les enfants le dimanche. Entre parenthèses, nous allons avoir besoin de beaucoup d'aide cet été. Vous devez prendre un temps de préparation. Il ne s'agit pas d'arriver le dimanche matin et de prendre un petit livret et puis de lire l'histoire aux enfants. Priez, demandez au Seigneur de vous donner le message qu'il a pour les enfants. Et quand vous faites ce temps de préparation, cette étude, rencontrez le Seigneur. Demandez-lui ce qu'il a pour comme message particulier. Et ensuite, une fois que vous avez cette révélation, la victoire va être à vous si vous continuez dans l'obéissance. Et ça, quel que soit votre appel dans le royaume de Dieu, rappelez-vous-en. Moi, je me souviens la première fois que j'ai eu le sentiment que j'étais appelé à venir en France. Et que mon église avait prié pour moi pour m'envoyer en France. J'avais l'impression que le plus gros était fait. Ça y est, je suis envoyé. J'étais appelé, c'est tout. Allons chercher la victoire. Le Seigneur a montré depuis qu'il y avait un long temps de préparation avant qu'il y ait vraiment sa présence. Que je ne dépende plus sur ce que j'avais pu apprendre, les méthodes que j'avais pu voir en œuvre. Mais que je dépende vraiment de lui. Que je le rencontre, lui. Et que je continue dans l'obéissance à ce qu'il me demande de faire. C'est une longue marche dans une même direction, la vie chrétienne. Mais la victoire est assurée. Il faut être persévérant. Lisons ensemble à partir du verset 6, du chapitre 6, on va reprendre au verset 1. Et donc, Jéricho était barré et barricadé à cause des Israélites. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, les vaillants guerriers. Vous ferez le tour de la ville, tous les hommes de guerre, vous tournerez autour de la ville une fois. Tu feras ainsi pendant 6 jours. » Sept sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront du cor. Quand on fera retentir la corne de bélier, quand vous entendrez le son du cor, tout le peuple poussera une grande clameur. Alors le rempart de la ville s'écroulera sur lui-même et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Noun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que sept sacrificateurs portent sept corps de bélier devant l'arche de l'Éternel. Puis il dit au peuple, passez, faites le tour de la ville et que l'avant-garde passe devant l'arche de l'Éternel. Il en fut comme Josué l'avait dit au peuple. Les sept sacrificateurs qui portaient les sept corps de bélier devant l'Éternel passèrent et sonnèrent du cor. L'arche de l'alliance de l'Éternel les suivait. L'avant-garde marchait devant les sacrificateurs qui sonnaient du cor et l'arrière-garde suivait l'arche. On marchait au son du cor. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix et il ne sortira pas une parole de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai « Poussez des clameurs ». Alors là, vous pousserez des clameurs. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle tourna une fois, puis ils rentrèrent au camp et y passèrent la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les sept sacrificateurs qui portaient les sept corps de bélier devant l'arche de l'Éternel se remirent en marche et sonnèrent du cor. L'avant-garde les précédait et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. On marchait au son du cor. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant six jours. Le septième jour, ils se levèrent avec l'aurore et firent le tour de la ville dans le même ordre, sept fois. Ce fut le seul jour où ils firent sept fois le tour de la ville. Alors, à la septième fois, les sacrificateurs sonnèrent du cor et Josué dit au peuple, « Poussez des clameurs, car l'Éternel vous a donné la ville. » La ville sera vouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Seule Rahab, la prostituée, aura la vie sauve, elle et tout ce qui est avec elle dans la maison, car elle a donné abri aux messagers que nous avions envoyés. Mais attention, gardez-vous de l'interdit, de peur qu'ayant déclaré l'interdit, vous ne preniez que de ce qui est interdit, et ne mettiez ainsi le camp d'Israël sous l'interdit en éjectant le trouble. Tout l'argent, l'or, les objets de bronze, de fer sont consacrés à l'Éternel. Ils entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des clameurs et l'on sonna du cor. Lorsque le peuple entendit le son du cor, il poussa une grande clameur. Le rempart s'écroula sur lui-même. Et le peuple monta vers la ville. Chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Ils vouèrent à l'interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville. Hommes et femmes, enfants et vieillards, bœufs, moutons et ânes. Josué avait dit aux deux hommes qui avaient espionné le pays, allez à la maison de la prostituée. Et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient, comme vous lui en avez fait le serment. Les jeunes espions y allèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir tous ses parents. Ils les mirent en sûreté en dehors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait, sauf l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer qu'ils livrèrent au trésor de la maison de l'Éternel. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle avait donné abri aux messagers que Josué avait envoyés pour espionner Jéricho. En ce temps-là, Josué fit faire ce serment. Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en assurera les fondations au prix de son fils aîné et au prix de son cadet, il en posera les portes. L'Éternel était avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Récit un peu long d'une histoire archi connue. Une histoire que vous avez probablement entendue quand vous étiez enfant. Si vous avez une éducation chrétienne, même une éducation catholique. Une histoire que vous avez peut-être dû enseigner, animer si vous avez servi dans l'école du dimanche. Une histoire d'une richesse fantastique. Je prie que le Seigneur va vraiment me diriger vers ce qu'il veut que vous en retiriez plus que tout ce qu'il m'a montré, parce que ce serait trop court. Encore une fois, ce qui frappe, c'est que la stratégie que préconise l'Éternel, que préconise Dieu, est absolument absurde pour l'homme. Cet ordre de, au lieu d'aller, ils sont près de 600 000 hommes en armes, prêts à envahir cette ville qui est certes fortifiée, mais qui n'est pas très, très grande en nombre. Et nous avons dit que ça avait dû être dur pour Josué d'accepter ce plan. Et encore plus difficile pour ses officiers de l'accepter de la part de Josué. Ils ont dû se demander qu'est-ce qu'on va faire avec le patron. Marcher en faisant de la musique autour de cette ville fortifiée. Remarquez bien que Josué avait la promesse de Dieu de victoire. Les soldats et le peuple qui marchaient n'avaient pas cette promesse encore. Ils devaient obéir un jour à la fois. Et on peut imaginer toute cette foule qui ne devait pas parler, donc qui se déplaçait en silence à part les cornes des prêtres. Qui s'avançaient en silence. Et à l'intérieur de Jéricho, les troupes probablement toutes prêtes à réagir. Ça y est, ils viennent vers la porte sud. Alors, préparons-nous. Et toutes les troupes qui se massent derrière la porte. Et puis, non, ils tournent à gauche. Ah, ils vont attaquer à la prochaine porte. Allons vite. Non, ils continuent en silence. Ils sont fous, ces Israélites, comme aurait dit Astérix. Et puis ce silence impressionnant. Et ce peuple à l'intérieur qui tremble parce qu'ils savent que Dieu est avec eux. Et puis à la fin de ce tour de la ville, ils repartent se coucher. Là, il y a dû avoir une réunion tard dans la nuit à Jéricho. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est leur stratégie? Est-ce qu'ils font ça pour nous endormir? Le lendemain, les Israélites, appelés par leur chef, à faire exactement la même chose. Ainsi de suite pendant 6 jours. Pourquoi 6 jours à faire ainsi? On peut imaginer qu'en fait, que c'était très dangereux de faire ainsi. Parce que le premier jour, ils ont été peut-être surpris, le deuxième jour aussi à Jéricho, mais le troisième jour, ils disent, ah ça y est, ils vont encore faire leur histoire, ils vont. Ils auraient très bien pu profiter de cette apparente attitude non belliqueuse. Pour en profiter pour les attaquer, les bombarder depuis les murailles, sans compter qu'il devait y avoir pas mal d'insultes, d'injures, de moqueries. J'aime bien l'idée que certains suggèrent qu'en fait c'était pour le bénéfice des Israélites. Parce qu'ils avaient tout loisir de contempler cette forteresse immense et de réaliser qu'à eux-mêmes, ils ne pouvaient pas y arriver. que par leur propre force, ils ne pouvaient pas faire tomber cette ville forte. Ils marchaient autour de la ville en silence. Et puis le lendemain, ils revenaient et les murailles n'avaient pas baissé d'un pouce. Elles étaient toujours aussi impressionnantes. Et au bout du sixième jour, ils devaient être bien déprimés. On a passé 40 ans à tourner dans le désert. Combien de temps allons-nous tourner autour de Jéricho? Je n'ai plus la foi de pouvoir y arriver par mes forces. Et c'est précisément l'endroit où Jésus, où Dieu voulait qu'ils arrivent. Et dans nos vies, nous nous battons des fois contre des choses qui se répètent. Des péchés dont nous n'arrivons pas à nous défaire. Des tendances dans notre vie que nous aimerions bien vouloir disparaître. Nous allons à une conférence. Nous entendons un message qui nous dit d'être plein de zèle. Et par la chair, nous commençons à prendre des résolutions. Ça y est, c'est fini, je vais plus regarder la télé. Je ne vais plus me mettre en colère avec mes enfants. J'écris un papier, je le signe, je le mets sur le frigidaire. Moi, par mes forces. Puis quelques semaines plus tard, nous tombons de nouveau. Puis on fait encore un autre tour, rien n'a été vaincu. Jésus veut nous amener au point où nous disons, Seigneur, j'y arrive pas. Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. C'est là qu'il veut que nous arrivions. Chose est sûre, c'est que l'ordre de procession était intéressant. Au verset 8, entre autres, on voit qu'il y avait d'abord une avant-garde, des soldats, puis 7 prêtres qui sonnaient du cor de bélier. Puis il y avait l'arche de l'Éternel et le reste du peuple en arrière-garde. Nous l'avons chanté aujourd'hui. Jésus soit le centre. Jésus soit le centre. Jésus était représenté par l'arche de l'Alliance. Nous le savons par l'étude que nous avons pu faire des 5 premiers livres de la Bible. Mais si au verset 8, parlant de l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance, ils disent qu'ils sont passés devant l'Éternel. La présence de Jésus, de Dieu, c'était l'arche de l'Alliance. Nous savons aussi que l'arche de l'Alliance était cette boîte en fait en bois d'acacia recouverte d'or qui avait là une très forte symbolique. Le bois représentait la faiblesse humaine, l'humanité parfaite de Christ. Et l'or représentait sa parfaite divinité, sa toute-puissance, son esprit parfait, sa perfection divine. Nous savons aussi que l'Arche de l'Alliance renfermait les tablettes de la loi. Il y avait aussi l'arche, le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Et la manne, un bol de manne qui représentait la provision du Seigneur. Mais il y avait aussi ce couvercle spécial avec les deux chérubins sur lequel on versait le sang du sacrifice. Et lorsque Dieu le Père regardait l'alliance, l'arche, il voyait les tablettes de la loi que l'homme avait brisées, mais il voyait le sang qui avait été versé sur la croix, l'inauguration de Jésus-Christ lui-même. Est-ce que Jésus est au centre de ma vie? Ou est-ce qu'il est à la fin de plusieurs choses? Est-ce que je pense à lui une fois de temps en temps? Surtout le dimanche matin parce qu'on parle de lui. C'est mieux que rien. Mais il doit être au centre de ma vie. Est-ce que je prends le temps d'être silencieux devant Dieu? À deux reprises, il est question de Josué et des sacrificateurs qui vont au combat ou se préparer tôt le matin. Joshua. Il y a quelque chose de remarquable dans le silence. Nous vivons dans une société, dans un monde saturé de bruit. Quand ce n'est pas les transports, la circulation, c'est le Walkman, le baladeur que nous mettons dans nos oreilles. C'est le CD que nous branchons dès que nous rentrons chez nous. À Murrieta, au début du mois, il y a eu un moment très fort. Où le pasteur Chuck Smith a demandé aux 600 ou 700 pasteurs qui étaient réunis pour la conférence. De se lever en silence, de quitter la salle de conférence et de marcher en silence. Jusqu'à un endroit en plein air où nous avons célébré la Sainte Cène. Il y avait quelque chose de très frappant de se retrouver à 600 ou 700 personnes dans le silence en train de marcher pour aller se préparer pour la Sainte Cène. Le silence peut être très inquiétant pour le non-croyant. Lorsque nous réagissons aux critiques, aux attaques par le silence et le sourire, c'est souvent bien plus puissant que si nous essayons de répliquer par la parole. Mercredi soir, nous sommes en ce moment en train d'étudier l'Apocalypse. Nous sommes dans le chapitre 8. Et ce qui est fantastique, c'est la façon dont le Seigneur peut nous amener à être dans des passages qui apparemment n'ont rien en commun. Et qui pourtant ont tout à voir ensemble. Vous vous souvenez que lorsqu'ils avaient traversé le Jourdain, il y avait 12 prêtres. Ici, il est question de 7 sacrificateurs qui portent 7 trompettes, 7 cornes de bélier. Et en fait, on le verra peut-être au fur et à mesure, et peut-être je ferai une dernière étude sur la signification prophétique du livre de Josué. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 8, il est question de 7 trompettes qui sont précédées d'un grand silence. Et ici, nous avons Josué qui vient reprendre la terre promise, qui vient mener le peuple de Dieu pour prendre la conquête de la terre promise. L'Apocalypse, c'est l'histoire de Jésus-Christ qui vient reprendre le titre de possession de la terre pour chasser l'usurpateur Satan, pour faire entrer son peuple dans le repos éternel. Quand je commence à voir ces similitudes dans la Bible, j'ai la chair de poule. Goosebumps. Whatever. J'aimerais que vous aussi, vous commenciez à être fasciné, passionné par l'étude de la Bible. Il n'y a pas de choses qui sont écrites dans la Bible qui sont là par hasard. La Bible, c'est la chose la plus passionnante que vous pouvez étudier. C'est la parole de vie. Et vous allez au fur et à mesure qu'on va avancer, on va voir les similitudes, les préfigurations, les symboles, les types que nous trouvons dans le livre de Josué qui correspondent à l'Apocalypse. Ce plan bizarre, le Seigneur nous l'explique, nous le montre. Pour nous montrer en fait que la victoire ne vient que de lui. Encore une fois, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voix sont élevées au-dessus de nos voix, ses pensées au-dessus de nos pensées. Je vous ai fait remarquer que le peuple rentrait chaque soir en se disant « Mais qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ?» On a marché en silence. On a pensé au Seigneur. Il était au centre de notre assemblée. Mais on n'a pas fait un seul progrès. Et donc, par la foi, le lendemain, il devait reprendre la marche. Et Jésus, nous avons dit que c'était notre Josué. Très souvent, il nous demande de persévérer un jour à la fois. Lorsque Nick a commencé son étude dans un parc à Ziegen, il ne pouvait que par la foi voir une église qui influencerait la jeunesse allemande. Nick est un homme de foi. Ce qui l'entoure aussi. Mais je sais, pour leur avoir parlé, qu'il y avait des fois, ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'ils font? Rien ne se passe. Notre pasteur commun qui nous a envoyé, Wayne Taylor, disait à Nick, mais tu vas te mettre à bosser un peu, vous allez faire un peu d'évangélisation, vous allez un peu parler aux gens. Et Nick se sentait appelé à prier pendant des mois pour la ville, avant de faire quoi que ce soit. C'est dur pour notre chair. Quand on cherche à envoyer des nouvelles de missionnaires pour assurer un soutien par la prière et aussi financier, les gens à la maison n'aiment pas trop recevoir une lettre disant « On prie depuis 6 mois que le Seigneur agisse. » Ils veulent voir des résultats. Ils veulent des noms. Il y a un tel qui se sont convertis. On les a baptisés. Alléluia! Ils veulent pouvoir amener un groupe d'évangélisation, faire un concert en plein air, faire un appel public, voir 20 personnes qui s'avancent, et dire ça y est, on a planté Calvary Chapel Ziegen, on a planté Calvary Chapel Nice. Mais si on leur dit, on est en train de prier. Ah, c'est bien, mais quand est-ce que vous allez vous mettre au travail? Ça, c'est l'influence du monde sur l'Église. Nous avons l'impression de perdre notre temps lorsque nous marchons devant Dieu, auprès de Dieu en silence, en cherchant sa volonté. Beaucoup de choses pourraient être mises en exergue, mises en avant dans ce récit. On pourrait mettre en avant le fait que la victoire, c'est encore une fois, c'est la foi. Dans Hébreux 11:30, il est dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Jean dit dans 1 Jean 5:4, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Our faith. La foi, c'est faire totalement confiance à Dieu et dépendre de sa toute-puissance. On pourrait remarquer aussi qu'il doit y avoir obéissance et discipline. On a vu comment Josué avait reçu ses ordres de Dieu, de Jésus, comment il les avait transmis aux prêtres, au peuple, et comment ceux-ci avaient obéi à la lettre. Et cette obéissance et discipline s'accompagnaient de courage. Il faut du courage pour être chrétien, pas chrétien nominal. Mais pour parler de Jésus-Christ aux gens qui nous entourent. Vous courez le risque d'être pris pour un illuminé. Mais comme il est dit sur le t-shirt de Tonio au dos, est-ce que nous sommes en fuego, en fuego, en feu pour Jésus-Christ? Ah, c'était un t-shirt qui parlait d'entraînement de soccer, de foot. Mais le Seigneur nous veut en feu pour lui. Il faut de la foi, de l'obéissance et du courage. Une application de cette étude qui est formidable, c'est de remarquer qu'en fait, l'ange de l'Éternel, ce chef de l'armée de l'Éternel, demande à Josué de faire des choses qui sont en complète contradiction avec la loi qui est révélée dans les 5 premiers livres de la Bible. La loi enseignait que le septième jour, on peut penser que c'était les sept jours se terminaient par le jour du sabbat, on a toute raison de le croire. De toute façon, il leur demandait de marcher tous les jours pendant six jours et puis de faire encore plus de marches le dernier jour, le septième jour. C'était en violation directe du commandement que le sabbat, on ne devait pas se déplacer. Au point que les plus légalistes comptaient le nombre de pas et se disaient « Oui, jusqu'à 10 pas, ça va, mais au-delà, non, c'est interdit. » Le jour du sabbat, on ne pouvait pas combattre. L'Arche de l'Alliance n'avait rien à faire dans la bataille. Les prêtres, les lévites n'avaient rien à faire dans le combat. Ils étaient exemptés de service militaire. Le livre des Nombres nous apprend que les mouvements de troupes et de l'assemblée devaient être réglés par des trompettes d'argent. Non pas ces trompettes de corps de bélier, et Josué avait peut-être envie de dire, mais mon Seigneur, mon généralissime, parce qu'il avait reconnu qu'il n'était plus le chef, je dois suivre la loi, je ne peux pas vous suivre. La loi est sacrée. Comment résoudre cette situation? Comment est-ce que vous pensez que Jésus-Christ peut demander à faire des choses contraires à la loi? J'aime bien la réponse d'un de mes pasteurs favoris, John Corson. Qui dit qu'en fait, lorsque Jésus est présent, la loi est caduque. Lorsque Jésus est présent, il est l'accomplissement de la loi. Le jour du sabbat, nous savons que c'est Jésus qui en est le maître. Nous avons vu que l'Arche de l'Alliance, c'est lui. Nous avons vu que le grand prêtre, c'est lui. Celui qui pousse une clameur, la voix des grandes eaux,
the voice of mighty river, mighty waters.
La trompette, c'est lui. Il fait entendre une clameur royale, est-il dit dans le nombre. Livre des Nombres. Et ça, je voudrais que ce soit la chose que vous reteniez de cette histoire de Jéricho. C'est aussi le message de Paul dans Colossiens 2, 16, 17. Où il dit « Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat, tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle de Christ. » Nous avons souvent dit que l'Ancien Testament, c'est la bande dessinée de Dieu. C'est l'image des choses à venir, des choses en réalité. Ces histoires, elles ont été écrites pour qu'elles nous servent d'exemple. Partant d'exemples d'histoires terrestres, nous avons un avant-goût de la réalité céleste. Tout ce que nous pouvons voir est temporel. Ce qui est éternel est invisible. Et quand on a la réalité de la présence de Christ, on peut se libérer complètement des images. On peut complètement se libérer de l'ombre. Et c'est comme Jésus nous dit, c'est comme si Jésus nous dit, je suis là maintenant au milieu de vous. Cessez de vous préoccuper des choses extérieures. Cessez d'être religieux. Cessez de mettre de l'importance sur les choses extérieures. Venez à moi. Venez faire l'expérience d'une relation intime avec moi. Si le Fils de l'homme vous libère, vous serez libre en réalité. Jean 8. C'est un peu comme si j'étais séparé de Nancy pendant quelques semaines. Et que j'aille à l'aéroport avec un magnétophone et mon album photo. Elle arrive, elle sort de l'aéroport et je commence à... Je lui fais un petit signe de la tête. Bonjour. Puis je commence à passer la cassette où il y a sa voix. Puis j'ouvre l'album de photos et je regarde ses photos. Je dis, oh, Nancy. Oh. Et Nancy est à côté de moi. Elle est beaucoup mieux que les ombres et les images que je peux avoir d'elle. Cessons par la grâce de Dieu d'être religieux. Si le Seigneur vous appelle à venir aller à la plage avec votre famille dimanche prochain, de grâce, allez à la plage. C'est dangereux, hein? Pour un pasteur, il ne va plus y avoir personne dimanche prochain. Peut-être que moi je serai à la pêche aussi. Parce que je ne me fais pas de soucis, c'est le Seigneur qui va vous diriger. Et la plaie de l'Église chrétienne d'aujourd'hui, et depuis l'avenue du Seigneur, c'est la religion. C'est la religiosité. Je viens dimanche matin parce que je l'ai toujours fait. C'est comme ça qu'on montre qu'on est spirituel. Je donne 10% parce que c'est ce qu'on appelle ça la dîme. Non, soyez comme Josué qui, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, lui a demandé, verset 5, chapitre 5, verset 14, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Verset 14, the end of 14. Qu'est-ce que tu me dis, Seigneur, aujourd'hui? Est-ce que je vais prendre mes ordres auprès du Seigneur tous les jours? Est-ce que je lui fais confiance pour être présent en réalité? Et donc Josué avait compris cette leçon. Il a fait confiance à Jésus. Nous avons tous nos Jéricho. Les choses difficiles dans notre vie. Les obstacles qui nous empêchent d'entrer vraiment dans la terre promise de la vie selon l'Esprit. Première chose à faire, c'est de demander au Seigneur qu'est-ce qu'il veut que nous fassions. De réaliser que ce mur, cette forteresse est trop dure pour moi. Et faire confiance au Seigneur que la victoire lui appartient. Pour lui qui est en dehors du temps, il me dit « Je t'ai déjà donné la victoire ». C'est la victoire de la foi, Jéricho. L'Éternel disait à Josué au verset 2 que nous avons lu, chapitre 6, « Vois, je te livre entre les mains Jéricho et son roi, les vaillants guerriers. » Josué aurait pu dire « Attends, une minute. » La muraille est toujours là, je vois encore rien. Mais par la foi, les murailles sont tombées. Prions. Seigneur, nous confessons que trop souvent, nous avons nos propres projets, nos propres plans. Nous disons te faire confiance. Mais nous avons souvent notre plan de secours au cas où le tien n'aboutirait pas. Pardonne notre manque de foi, Seigneur. Et Seigneur, sois vraiment le centre de ma vie, de nos vies, de la vie de notre Église. Seigneur, sois celui en qui nous mettons toute notre confiance pour remporter les victoires des batailles qui nous attendent. Et Seigneur, merci surtout de nous libérer de la religiosité. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Seigneur, sois vraiment vivant parmi nous. Seigneur, transforme chacune de nos vies. Seigneur, fais de nous une église vibrante de ta présence. Sois béni, Seigneur, parce que c'est ce que tu veux faire. Aide-nous à te poser la question du serviteur, que veux-tu que je fasse ? Personnellement et ensemble, Seigneur. Chaque jour. pour que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, nous le prions par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Et tous les saints répondirent Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse de joie, de foi. Et je sais qu'il va pourvoir des ouvriers pour cet été. Amen.
Amen.
Amen. Seigneur vous bénisse. Amen.